Le peloton RMC.
Georges Quirineau.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans le peloton RMC. Prenez place, vous le savez, c'est le nouveau nom de votre podcast cyclisme. Rejoignez-nous d'ailleurs sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook, sur toutes les plateformes, évidemment, les réseaux sociaux pour participer au débat. C'est @pelotonRMC. Vous aurez également les dernières informations. Avant chaque grande course du week-end, vous allez voir, le peloton RMC va vous proposer un roadbook pour un petit peu comprendre les enjeux, le parcours, les start list des grands événements. Et on va aujourd'hui s'intéresser à la 78e édition du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors certains vont dire la 78e édition de quoi, on ne connaît pas cette course. En fait c'est que c'est le nouveau nom du critérium du Dauphiné, il va falloir s'habituer. Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ça débute ce dimanche. Je sais pas si on va l'appeler comme ça ou si on va l'appeler le Tara. On l'appelle comme ça. Pierre Cotchette, bonjour.
Salut. Non, je me suis pas fait à l'idée encore.
Ouais, donc on va continuer à dire
le Dauphiné.
Le Dauphiné,
comme des gros beaufs qu'on est. Et...
D'accord. Bon, ben regarde ça. Tu prends pas le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Maxime Martinez.
Le Tara, qui était une proposition de Jérôme Pinault, mais je préfère quand même le Dauphiné.
Ouais.
C'est plus historique.
Ah ouais, mais bon les gars, il va falloir s'habituer. Je vous préviens. Donc on l'a pas tout à fait cette année sur quoi, sur Grand Wevelgem.
Sur Grand Wevelgem.
Un peu difficile.
In Flanders Fields.
Et sur In Flanders Fields, c'était un peu difficile. Bon là, évidemment, on va mettre en avant nos régions. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs. C'est un jour, ça devient un enjeu véritablement. On l'a vu également sur Paris Roubaix. 78e édition du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Je le disais, ça commence dimanche. Évidemment, on en a déjà beaucoup parlé dans le peloton RMC puisqu'on a parlé de la préparation de Paul Sexas. Alors avec qui cette course? Alors il y a du monde quand même, je vais vous donner une liste, avec Paul Sexas évidemment, avec Del Toro, avec Almeida, Ayuso, Schelmose, Daniel Martinez, Only Rodriguez, Jorgensen, Johannessen. Est-ce que vous excite cette start list, Pierre?
Elle m'excite énormément pour deux raisons. D'abord parce que il y a plein de coureurs qu'on n'a pas assez vu cette saison et qu'on a bien envie de revoir, type Ayuso, Del Toro, et qui sont, ou même Sexas, qu'on a quand même pas assez vu à mon goût. Enfin, mais ça se comprend. Et en plus, ça promet une bagarre assez intense, parce qu'il y a pas mal de gens qui a du monde à prouver, qui a des choses à prouver, et il n'y a pas les mutants. Il n'y a pas les mecs qui écrasent une course, que ce soit un Pogacar, un Vingegaard, où tout le monde est obligé de se... calibrer sur la course de l'un, la course de l'autre. Là,
on rappelle l'année dernière, victoire de Pogacar devant Vingegaard, Lipovic et Evenepoel.
Là, c'est open bar total. Et ça doit flinguer dès la première étape pour voir qui a le leadership.
Max, tu attends une course excitante?
Ça va être très excitant. En effet, il n'y a pas les mutants, mais il y a les baby mutants. Ce que je te disais tout à l'heure, on a Sexas et Del Toro qui sont là. Donc ça va être une course intéressante aussi pour pouvoir les classer. Parce que au fur et à mesure de la saison, on a eu Ayuso qui a fini devant Sexas. C'était du côté du Tour d'Algarve. On a eu Del Toro qui a fini derrière Sexas au Stradé. Mais on a vu que Sexas progressait de course en course en tenant notamment la route Pogacar à Liège. Donc maintenant, on a envie de voir, à quelques semaines du Tour de France, où en est cette hiérarchie.
Ouais. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu, par exemple, le duel attendu sur le Tour du Pays Basque, puisque Del Toro avait renoncé assez rapidement, comme Ayuso également. Donc là, c'est l'occasion de revoir un petit peu tout le monde.
Mais
c'est
vrai et Del Toro et Ayuso reviennent de maladie.
Non, mais c'est ça, on ne sait pas trop où ils en sont.
On ne sait pas trop où ils en sont, à 4 semaines maintenant, un mois du départ du Tour.
Le plus gros point d'interrogation, c'est Ayuso, pour le coup, qui lui avait commencé très fort.
Il a commencé, il avait gagné le Tour d'Algarve, et derrière, chute à Paris-Nice, abandon aussi autour du Pays Basque,
une infection.
On l'a pas vu, et il est dans une équipe qui est quand même en grande difficulté, et qui d'ailleurs va changer de patron, de sous-patron, de patron du sportif, de tout, donc on est quand même dans un no man's land côté Lidl Trek sur comment ça va se passer sur les prochaines semaines.
Ouais. Sachez que Andy Schleck va devenir le grand patron de la structure à partir de l'année prochaine. Il était revenu déjà un petit peu dans l'équipe Lidl Trek, désormais il va devenir le grand boss.
Et le patron du sportif vient de chez Visma.
Exactement, ouais, c'est vrai que Visma, ils perdent pas mal de monde, ils perdent pas mal de plumes depuis quelques temps. Il faudra qu'on en parle également aussi dans le peloton RMC. On est jeudi au moment de l'enregistrement de ce podcast. Jeudi, c'est le jour où on a eu la composition de l'équipe Décathlon CMA CGM. Paul Sexas, entouré par l'équipe Tour de France, pas loin, Pierre?
Ça y ressemble en tout cas. On va parler d'ossature.
Avec Aurélien Paré-Peintre, Mathieu Ricitello, Léo Bizio, avec Nicolas Prudhomme, Stéphane Bisseger et Dan Hull.
Si ça va au Tour de France, On peut être confiant pour Paul Sexton.
Sachant que sur le tour, logiquement, il y aura Olaf Koy.
Ouais. Ouf.
Le sprinter,
c'est ce qui avait été annoncé au départ.
Oui, bien sûr, mais alors, avant d'avoir les données de la saison.
Il y aura peut-être des changements d'ici là, mais c'était prévu initialement.
Mais en tout cas, c'est une équipe avec deux gros rouleurs qui vont pouvoir le protéger là où il faudra le protéger, des bons grimpeurs qui vont pouvoir l'accompagner dans ce qui est quand même, ce qu'on va parler du parcours, ça grimpe énormément, et Mathieu Ricciatello en dernier lieutenant. C'est, l'équipe, elle est construite autour et pour Paul Sexas. Et c'est assez rare pour un gamin de 19 ans et c'est solide.
Ouais. Et non, très intéressant d'avoir un rôle toujours comme Bisseger, notamment pour le chrono par équipe.
Mais elle dit quand même quelque chose, cette composition, sur les ambitions de Paul Sexas. C'est je viens pour gagner.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à la révélation de cette équipe. Il vient pour gagner.
Bah, elle est faite pour
un signal aux adversaires déjà.
Ah oui.
Enfin, même pour le coup, nos confrères à l'étranger, quand ils présentent ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est titré autour de Paul Sexas. Hein. C'est Paul Sexas, c'est pas un phénomène français en fait. C'est ça qui me semble important de rappeler. À nous, la presse française, qui nous ont flamands.
Depuis Liège et même aussi, un peu avant Liège et la Flèche, voilà, on sait très bien que ça a explosé les frontières.
Ouais, voilà. Bon, on l'a pas revu depuis Liège-Bastogne-Liège, effectivement. Depuis sa joute contre Tadej Pogacar, qui l'a fait éclore véritablement, définitivement aux yeux du monde. Alors ça commence dimanche donc pour cette 78e édition. Tour Auvergne-Rhône-Alpes, vous en avez l'habitude du Dauphiné, hein, c'est toujours avec notamment un dernier week-end, un VSD très très montagneux où on vient sur des étapes qui peuvent ressembler à du Tour de France. Il y aura notamment une arrivée finale au plateau de Solaison où on va venir sur le Tour. Et il y a un chrono par équipe également. Il y a un parcours pour s'amuser. Hein. Voilà, c'est quand même toujours une épreuve assez difficile à maîtriser aussi pour les coureurs.
Tout à fait. Je me souviens qu'il y a quelques années, Jorgensen, comme ça, avait failli récupérer et battre Roglic en partant dans des échappées, en profitant des libertés qu'on peut obtenir, parce que ça monte et ça descend tout le temps. C'est impossible quand vous avez une équipe de contrôler toute la course. Alors là, quand en plus, il n'y a pas de grosse équipe qui domine au départ, parce que vous n'êtes pas, comme vous n'avez pas Pogacar, vous n'avez pas la UAE qui va verrouiller la course, comme vous n'avez pas Vingegaard, vous n'avez pas la Visma qui va verrouiller la course, tout le monde va vouloir tirer son épingle du jeu. Et ça veut dire aussi, et ça veut dire que les favoris vont chercher à se flinguer dans les grosses montées, que ce soit le premier jour ou les derniers jours, mais ça veut aussi dire que pendant toutes les étapes qu'on peut pas vraiment appeler de transition parce que elles sont extrêmement variées et très accidentées. Il y aura l'opportunité de coups, il y aura l'opportunité de tenter quelque chose. On avait parlé d'un profil un peu similaire pour le Tour du Pays Basque.
Des profils un peu rock'n'roll, quoi, on va dire,
et
tous les jours.
Et résultat, Paul Sexas avait attaqué assez régulièrement, oui, de très loin.
On va pas dire tous les jours.
En descente, partout.
Histoire de verrouiller la course à sa façon. Là, ça va être compliqué de le faire sur 8 étapes, mais c'est une option.
À partir de quel moment comment ça se joue le classement général, tu penses, Max?
Dès le premier jour. Le premier jour, à l'arrivée à Saint-Imier, première étape qui part de Vizy.
Saint-Imier.
Il y a un parcours qui est déjà assez casse-pâte, avec une arrivée en côte et une sorte de col qui est à 8,2 km qui est placé à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée où ça peut déjà un peu partir. Donc déjà là, il y aura peut-être une première bataille. Après, ce sera plutôt des étapes pour baroudeurs. Et puis il y a déjà le chrono par équipe le troisième jour qui pourra déjà donner quelques indices sur la hiérarchie.
Ouais, un écrémage pour le classement général avant le chrono par équipe. Je rappelle qu'il sera le mardi, c'est la troisième étape autour de Perreux, un chrono par équipe de 28 km, un peu plus long, même plus long que celui que l'on aura sur le Tour de France, qui sera 20 km à Barcelone, un peu plus escarpé parce qu'il y aura la montée de Montjuïc. Mais ça va s'écrémer avant ?
Alors là, l'intérêt de ce chrono par équipe, c'est qu'il ressemble plus à un chrono par équipe classique, dans la mesure où, en fait, comme c'est relativement plat, t'as intérêt à garder le plus de monde possible jusqu'au bout, parce que tu vas vouloir profiter.
On rappelle que la règle, quand même, c'est qu'on va prendre les temps individuellement, comme au Tour de France. Et pas par équipe sur le quatrième ou le cinquième coureur, comme c'était le cas auparavant.
Voilà, mais comme sur le Tour de France, ça finit par une montée, t'as intérêt à lancer ton leader et qu'il finisse la montée en donnant tout ce qu'il a, autant là, t'as un peu intérêt à garder des Danouleux et des Bisseger jusqu'au bout parce que tu vas en avoir besoin dans les 10 derniers kilomètres.
C'est assez plat, à part le tout dernier kilomètre, l'arrivée au Perreux, avec un dernier kilomètre à 5,7% de moyenne sur l'arrivée.
Petite rampe de lancement.
Oui, voilà. Là, on sera très grand plateau.
Sur le chrono par équipe autour de Perreux. Non, mais en vrai, c'est quand même important. Bah, là, on va en parler de Paul Sexas. De bosser sur ce chrono par équipe avec on sait c'est pas un truc que tu découvres le jour même hein, c'est quelque chose qui se travaille donc évidemment dans son choix d'ailleurs de faire cette course la présence du chrono par équipe en faisait partie également
pour se préparer pour le Tour de France tout à fait et puis c'est un exercice qu'on peut pas prendre à la légère parce que c'est un exercice où un tu peux perdre beaucoup de temps et ou deux, c'est un exercice de spécialiste. On rappelle, il y avait des équipes qui étaient absolument spécialistes, Rika Greenedge, l'US Postal à l'époque d'Armstrong, ou même la ONCE avant, étaient totalement spécialistes de cet exercice.
Il y a du monde quand même, hein, franchement, quand je regarde les startistes. Non mais c'est vrai. Alors on a parlé de l'équipe Décathlon CMA-CGM, je rappelle qu'RMC-BFM fait partie du groupe CMA-CGM, c'est toujours important de le rappeler. Mais l'équipe UAE, Tim Wellens, Sivakov, Oliveira, Del Toro, Vermerck, Torres, Almeida, Cosnefroid. C'est une grosse équipe quand même. Et l'équipe Ineos, Net Compagnie Ineos, c'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais, avec Carlos Rodriguez, avec Kevin Vauclin, avec Joshua Tarling, avec Dorian Godon, avec Oscar Henley. Je vais aller chez les Visma. Alors on n'a pas les compositions en définitive, hein, encore au moment où on se parle, mais les coureurs annoncés, il y avait du Jorgensen, Nordegen, Armirail, Wout van Aert également que l'on retrouve.
Non mais il y a. Ça roule pas mal. Hein.
Non mais voilà, franchement, c'est pas du tout un boulevard parce qu'on a une équipe comme ça sur le papier qui semble bien pour Paul Sexton. Ça, c'est une vraie joute pour savoir où on se situe quand même.
C'est un boulevard pour personne cette course, ni pour Del Toro, ni pour Ayuso, ni pour Paul Sexas. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que ils vont devoir aller la chercher tous autant qu'ils sont. Alors on espère que Paul Sexas arrivera à la récupérer à la fin, mais tout le monde va devoir aller la chercher celle-là.
Alors je le disais, donc évidemment ça va commencer à se corser vraiment à partir du vendredi, enfin on l'a dit, il n'y a pas une étape simple hein, mais la haute montagne c'est vraiment à partir du vendredi, ensuite le samedi il y a une arrivée au Grand Colombier classé hors catégorie, évidemment le Grand Colombier qui est devenu un grand classique désormais
par un versant différent d'habitude et qui est encore plus dur.
Voilà, on a toujours trouvé des choses, et donc je disais l'arrivée finale au plateau de Solaison comme la 15e étape du tour, même si toute l'étape sera différente de ce qu'on connaîtra sur la grande boucle cet été. Alors, tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, Pierre, c'est vrai que, franchement, là, Paul Sexas, avec son équipe, ils vont se retrouver vraiment face à une équipe UAE très puissante, notamment. S'ils assument la course, c'est quand même déjà un vrai signal envoyé. Est-ce qu'ils ont intérêt à assumer la course ou à se jauger par rapport à ce que peut proposer l'équipe UAE qui vient quand même, à part un Pogacar, avec une armada, quoi.
Il y a deux... Il y a deux objectifs en un quand même dans cette histoire. D'abord, il y a cette course qui est prestigieuse, qui n'a pas été remportée par un Français depuis un petit bout de temps quand même.
Christophe Moreau.
Parce que c'était Christophe Moreau et c'était la dernière fois qu'un Français avait remporté une course World Tour avant le Tour du Pays Basque de cette saison.
C'était en 2007.
Donc c'est pas une course à prendre à la légère, mais c'est aussi une course où tu vas montrer tes forces avant le Tour de France. Et... un paquet des coureurs qu'on voit là, en fait, ils ont déjà passé leur mois de mai ensemble en Sierra Nevada, où il y avait Wout van Aert, où il y avait Jorgensen, où il y avait Paul Sexas, etc., où il y avait Del Toro, pour se préparer. Et c'est la course où, en fait, tu actes où tu en es de ta préparation pour le Tour de France et si tu peux nourrir des espoirs ou pas pour le Tour de France. J'ai souvenir d'un Dauphiné de Remco Evenepoel qui souffrait dès que ça montait sur son vélo et que Patrick Lefebvre avait envoyé à Merano dans la foulée pour perdre les, les petits kilos en trop. Donc voilà, ça se voit en fait. C'est là où tu vois si le travail paye. Tu sais qu'il y a encore quelques semaines pour peaufiner les réglages, mais c'est au Dauphiné que tu vas voir la forme que tu auras sur le Tour de France, et c'est au Dauphiné aussi que tu peux, au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pardon à tous les gens de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont les impôts ont servi à payer le nom de cette course. Donc c'est au Tour Auvergne-Rhône-Alpes que tu vas aussi envoyer un message à la concurrence. Je veux dire, si Décathlon veut jouer le général autour de France, ils peuvent effectivement, dès maintenant, prendre la course à leur compte et montrer qu'il faudra compter avec eux et qu'ils ne seront pas là juste pour regarder les UAE de Pogacar faire le tempo pendant 3 semaines. Mmh. C'est une façon de le faire. C'est pas forcément le choix qui sera fait, peut-être qu'ils vont que la course, l'objectif 1 qui est la victoire, dictera autre chose. Mais c'est sûr que ce qui va être fait en course, ce sera analysé à deux niveaux. Un, comment faire pour gagner des cours, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, et deux, quel message chacun veut faire passer en vue du Tour de France.
On a vraiment beaucoup à apprendre, tu penses, en vue du Tour de France, oui, sur ce dernier et week-end sur
à la fois individuellement, avec tout ce qu'a dit Pierre à l'instant, mais aussi collectivement dans les équipes qui commencent à s'approcher pour certaines de ce qu'on pourrait voir au Tour de France. On parlait du AE où on voit du Wellens, du Sivakov, on parlait de Decathlon AG2R. Collectivement, on va aussi avoir...
Decathlon une... CMA-CGM.
CMA-CGM, oui. J'ai dit AG2R ?
Ouais.
Oui. Decathlon CMA-CGM, c'est l'habitude. On va avoir des premières réponses sur collectivement qu'est-ce que valent ces équipes. Et donc là, ça va être intéressant. Surtout que c'est souvent serré quand même le Dauphiné au classement général. Il peut y avoir sur la dernière étape des tentatives pour essayer de tout faire renverser. C'est souvent arrivé, un peu comme à Paris-Nice aussi des fois.
C'est vrai, ça peut jouer à des moyennes secondes parfois.
Hein. Exactement.
Peut-être moins que Paris-Nice, mais ça...
Voilà, mais avec un bémol qui est sur le parcours, et on en parlait tout à l'heure, moi je trouve que le parcours, sur la dernière étape en tout cas, est assez mal dessiné parce qu'il y a une descente interminable du col des Aravis. Et c'est un mouroir à échapper, un mouroir pour essayer de faire des coups, essayer de tout renverser. Donc c'est le seul petit bémol. Et c'est là, en fait, ça va jouer, bah, je pense, ça va être un concours de watts comme on a depuis le début de la saison sur les deux arrivées finales au Grand Colombier, au plateau de Solaison. Mais là, on saura qui est le plus fort.
Bah, surtout, on va savoir aussi, parce qu'on ne l'a pas vu depuis le début de la saison, Paul Sexas en haute montagne véritable, face à des concurrents, face à Del Toro. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu vraiment au Pays Basque, mais ce n'était pas la haute montagne comme on peut la voir dans les Alpes, évidemment. Et face à Ayuso, ou même face à Almeida, on avait vu en tout début de saison au Tour d'Algarve qu'il avait réussi à gagner une étape, mais il n'avait pas réussi forcément à les décrocher dans la dernière difficulté. C'est quand même encore un rendez-vous supplémentaire pour savoir où il en est. Et aussi, on est en France. Hein. Alors, c'est peut-être une donnée différente. Alors, on sait que le Dauphiné ne rassemble pas, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, des centaines de milliers de personnes, comme ça peut être le cas sur le Tour de France. Mais ça va quand même peut-être déjà être un premier pouls pour voir avec le public tricolore comment est-ce qu'il peut performer dans ces environnements-là.
Bien sûr. Et puis, c'est que ça, c'est le Lyonnais, quand même.
En plus,
il est à domicile.
Donc, il y a quand même cet élément-là. C'est que ça, ce qui était en la fameuse vidéo... La fameuse vidéo des grands-parents, elle n'est pas dans les Pyrénées. Hein.
Ah oui.
Donc.
Mais c'est sa course, il a
voilà.
Domicile.
Donc là, clairement, on est sur. C'est la. Voilà, c'est effectivement. Bon, il a déjà fait cette course parce qu'il a disputé l'année dernière.
Il a terminé 8e.
Ce qui est pas mal à 18 ans. Là, il a des immenses espoirs. Effectivement, on ne l'a pas vu à ce niveau-là et à cette altitude-là encore. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça avant chaque course de Paul Sexas, et chaque fois, on est plutôt heureusement surpris.
Oui, on ne l'avait pas vu sur l'Elbe-Bastogne-Liège.
Donc, voilà. Non, ouais. Mais on ne l'avait pas vu essayer de garder la route Pogacar aussi longtemps.
Non.
On l'avait pas, puis on ne savait pas s'il pourrait le faire ou pas.
On l'avait vu quelques mois avant sur la Strade Bianche, ça n'avait pas marché, et quelques mois après, ça a beaucoup mieux marché.
Voilà.
Et puis on était là, oui, on n'oublie pas Evenepoel, il n'y a pas eu de Evenepoel sur la course. Donc, à chaque fois, c'est un nouveau... Enfin, on l'attend à un nouveau rendez-vous. À chaque fois, le rendez-vous est un peu plus haut, un peu plus dur, un peu plus... Et puis à chaque fois, il est là. Donc il n'y a pas de raison de penser que... Mais et un jour, il ne sera pas là. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de raison de penser que ça sera que la marche est trop haute. Mais encore une fois, il ne fait pas la course tout seul. Donc il y a du monde dans sa roue et il y a du monde qui va s'accrocher.
Tu l'as dit, Max, il termine 8e l'année dernière, à 8 minutes 25 de Pogacar. On a l'impression qu'il y a un an, c'était il y a 10 ans.
C'était, oui, c'était très très, c'était très très loin.
Entre, mais je regarde par rapport à ceux qui sont là cette année, par exemple. Devant lui avait fini Tobias Johannessen 2 minutes devant lui, Jorgensen 1 minute devant lui. En fait, il était quand même déjà...
Dans
à l'époque, pas très loin de ceux qu'il va affronter à partir de la semaine prochaine, avec une marge de progression, à partir de ce week-end, avec une marge de progression depuis un an qui est quand même stratosphérique par rapport à ce qu'on pouvait imaginer.
Et on a bien vu qu'il a progressé quand même depuis dans plusieurs secteurs.
Oui, non, mais même en termes de leadership, hein. Voilà. On l'a vu depuis le début de la saison, c'est quelque chose qui était très observé par son équipe, et notamment Julien Jordi, tiens, qui fera partie de la directeur sportif, qui était avec lui en début de saison sur ses courses à étapes, et qui va être encore dans la voiture. Il connaît très bien la région, hein, également, le Stéphanois, pour lui apporter dans les grandes étapes, évidemment.
L'équipe est même basée dans la région, elle est basée à Chambéry.
À la mode Servolex.
La mode Servolex, oui, tout à fait.
À Max, c'est toujours important de rappeler le service course de cette équipe. Alors les gars, tout simplement, on va arriver à la fin de ce roadbook. Alors vous allez voir sur les réseaux, notamment l'équipe de peloton RMC a donné son pari pour le vainqueur final. Si je dois vous demander un trio, le podium à l'arrivée au plateau de Solaison, donc où se disputera ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Max.
Je vais être très original. 3 Ayuso, 2 Del Toro, 1 Sexas.
3 Ayuso, 2 Del Toro, 1 Sexas. Mon cher Pierre Cotchette.
Alors, 3 Sexas, 2 Only, 1 Del Toro.
Alors pourquoi, tiens, si je peux te demander?
Pourquoi quoi?
Non mais pourquoi Del Toro et pourquoi Sexas 3ème? Et pourquoi?
pourquoi Sexas derrière Only? Parce que je pense que Ineos, notre compagnie, va être très fort sur le contre-la-montre par équipe. Et que je pense que...
Il est long, on a dit, c'est presque 30 km.
Il est long,
c'est
et Tarling, ils ont vraiment une super équipe de roulers.
Vraiment Tarling, Godon, Vauclin même.
Voilà.
Franchement, donc ça va le placer, je pense. Si, si, mais en fait, je me dis qu'il reste quand même derrière 3 énormes étapes de montagne.
Ça va le placer,
quoi.
Et que derrière, il va s'accrocher. Et ça, on sait que Honley, il s'est très bien s'accroché à tout le monde et qu'il va profiter, marquage ou autre, entre les uns les autres. Je pense que Del Toro a quelque chose à prouver. Je pense que Del Toro il n'a pas 150 courses où il peut gagner.
Derrière, il va pas gagner le Tour de France, a priori, parce qu'il est censé être coéquipier de Pogacar. S'il se passe des choses.
Il y a une revanche à prendre sur la Via Santa Catarina à Sienne.
Sur pas mal de choses. Et que,
sur le Pays Basque, hein,
oui, bien sûr.
Et que donc, je pense que voilà, c'est son moment, c'est son occasion. Après, peut-être qu'il va se planter, mais en l'occurrence, pour moi. À mon avis, son vrai objectif de la saison, il est là pour Del Toro, dans la logique de je renégocie mon contrat, je me fais pas prendre la place à UAE par Freud Sexas, peut-être. Voilà. Ouais. Bref. Et Sexas en 3, non, j'ai dit en 2. C'est pas... Non.
Non, t'as en dit Honley en 2, Sexas en 3 et Del Toro.
Ah, salaud. Et Sexas en 3, c'est bien.
Faut pas s'enflammer.
Faut pas s'enflammer. Il descend de la montagne. Lui, son objectif, c'est plus le Tour de France que le Tour de Auvergne-Rhône-Alpes. Il saura encore ce qu'il a à travailler.
Je sais pas, pour le coup, pour préparer peut-être le terrain. Est-ce qu'on en voudra à Paul Sexas s'il gagne pas le Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
Non.
Moi, je pense qu'il a un message à envoyer quand même à la concurrence, peut-être collectivement, notamment sur la force de l'équipe et sur ce qu'il peut montrer en montrant que voilà, il est prêt quand même. Mais est-il obligé? Est-ce qu'il a de gagner cette épreuve pour absolument se positionner avant le Tour de France? J'en suis pas convaincu. Je pense qu'il a déjà fait le travail avant, mais il faut pas passer complètement à côté non plus, quoi.
Voilà, mais 3 c'est bien. 3 ça fait le job.
Alors moi je le vois tellement pas passer à côté que je le vois gagner Paul Sexas devant Del Toro, et je mets Tobias Johannessen 3ème, parce que toujours placé, l'ami 3ème du Pays Basque, 4ème de Tirreno. Donc c'est jamais gagnant. Mais toujours placé. Il sera peut-être pas loin de la vérité.
J'ai peur qu'ils prennent. Ce soit beaucoup plus dur le chrono par équipe pour notre.
C'est pas possible. Une OX sur le chrono par équipe, en effet, c'est. Et il a très grosse cote.
Rampe de lancement à 15 km de l'arrivée. Allez, vas-y, Tobias. C'est pour toi.
Dans la descente, allez.
Je vois que ni toi ni moi n'avons confiance en Juan Ayuso, ça fait plaisir.
Je sais pas, Max, j'avoue, moi, Juan Ayuso, je sais pas, j'y crois pas trop. J'ai trop été déçu.
J'ai envie d'y croire, c'est plus ça. J'ai envie d'y croire et j'ai envie de voir ce qu'il.
En Algarve, oui,
mais. Il était là en Algarve et il a battu Sexas. Alors, c'est pas le même Sexas, mais.
Ouais. Non, mais c'est François Delattre qui nous a dit dans un roadbook un jour, dès que ça commence à devenir difficile, on a l'impression qu'il plie un peu les ailes. Et je pense que je suis un peu d'accord. Alors peut-être qu'il va nous prouver le contraire, hein, on lui souhaite, hein, à Juan Ayuso, mais
par contre,
j'ai peur de voir que quand la bataille va devenir vraiment chaude.
Lui, il a énormément à prouver.
Ah non, bah là,
là.
Non, c'est Skelmoseux qui va être le.
C'est ça.
Le,
qui va être le leader sur le Tour de
France.
Warren Schleck.
Donc,
on va rappeler du non, Giro après
je
son
sais pas, Warren Schleck. Carrément. Non, non, mais on rigole, on respecte évidemment Juan Ayuso, mais c'est vrai qu'il a énormément approuvé parce que, bah voilà, c'était l'un des transferts.
J'espère pour lui
parler.
Qu'il arrive le couteau entre les dents pour essayer de faire le meilleur résultat possible.
Et l'équipe de Trek doit montrer quelque chose aussi.
Voilà.
Parce que,
collectivement.
Le Giro aussi, voilà, ils espéraient certainement avoir autant de victoires que Paul Magnier pour Jonathan Milan. En fait, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, même s'il a gagné à Rome le sprint final. Voilà pour ce roadbook du Tour Auvergne-Rhône-Alpes qui commence dimanche. Évidemment, on va continuer de suivre sur le plateau RMC. Restez connectés avec nous, hein, avec nos interviews, notamment Maria Azé est sur place. Écoutez sur RMC, vous n'allez rien manquer. Jérôme Coppel également sera là-bas pour le dernier week-end. Vous aurez toutes les informations sur nos réseaux @pelotonRMC. Évidemment, pour débattre avec nous également, nous proposer votre tiercé, notamment. On va voir où est-ce que vous placez Juan Ayuso. Tiens, ça va nous faire débattre, ça. Allez les amis, merci beaucoup et Tara qui débute ce dimanche.
Le peloton RMC,